parabole du jour avec le Père Willem.
Qui est samaritain ? Nous avons besoin d'un christianisme non pas doré, violet ou rouge, mais gris. C'est ce que disait le grand philosophe polonais Leszek Kolarowski. Il avait connu dans son pays, entre 1939 et 1945, la peste brune. Il s'était laissé, un instant, séduire par le drapeau rouge du communisme soviétique. Autant dire qu'il avait quelques raisons de se méfier des couleurs trop vives dont se parent les pouvoirs totalitaires. Du christianisme dont il s'était ensuite rapproché, il n'attendait pas qu'il se substitue au soleil trompeur des idéologies, l'éclat doré de ses pompes et la pourpre de son gouvernement. Il le voulait gris. Non parce qu'il ait plaidé pour une religion atone et triste, mais il attendait de lui qu'il ne s'évade pas dans la grisaille quotidienne et qu'il aide les hommes à affronter l'épreuve de vivre et, dans la conscience des limites de la condition humaine, à surmonter les difficultés immédiates de la vie. D'aucuns, aujourd'hui, ne rêvent que de redorer les lustres de la religion. Mais ces lustres-là n'éclairent plus qu'eux-mêmes et les verrières polychromes du catholicisme qu'on restaure à grands frais, risquant de ne plus attirer que les touristes, les esthètes et les historiens. Il ne faudrait pas qu'en plus elles détournent les yeux des croyants, des grisailles qui, dans les bas-côtés du sanctuaire, captent discrètement la lumière du dehors et en diffuse humblement le mystère dans la grande nef. De même, il ne faudrait pas que les apôtres de la charité, et qui sont devenus des figures de vitrail et des icônes médiatiques, fassent ignorer le rayonnement au cœur de la grisaille du monde de tant d'hommes et de femmes qui se dévouent sans compter au service de leurs frères et de leurs sœurs. Les uns sont engagés dans un organisme ecclésial ou une association confessionnelle. Ils s'affichent comme chrétiens et revendiquent leur appartenance à l'Église. D'autres, au nom de la même foi, ont choisi de devenir bénévoles ou salariés d'une association humanitaire ou confessionnelle. Ils y rencontrent d'autres croyants, mais qui, eux, se disent non pratiquants, croyants sans religion, dans l'engagement socio-associatif, caritatif, constitue le seul mode d'appartenance à l'Église. Ils y restent, dans cette Église, d'une certaine manière, d'une manière originale, mais très active, une manière qui leur est propre. Tout comme les ONG, les organisations non gouvernementales catholiques se rencontrent, plus nombreux qu'on ne l'imagine, des croyants qui ont choisi d'être des compagnons de route du christianisme social. Il arrive, bien sûr, que ce bel œcuménisme de la charité soit gâté par l'intransigeance d'ultra-catholiques qui, par exemple, remettent en cause les légitimités du Secours catholique, du CCFD ou de la DCC, au motif que certains de leurs membres, salariés ou bénévoles, n'adhèrent pas pleinement à l'Église. Mais il n'est pas rare non plus que d'ardents militants chrétiens soient soupçonnés de prosélytisme par des esprits laïcs et d'inauthenticité par ces croyants non pratiquants qui joue volontiers à inverser la parabole du pharisien et du publicain dans Luc 18 Mon Dieu, je te rends grâce de n'être pas comme ce pharisien. Quoi qu'il en soit, quand on envisage l'Église à partir de cette dimension essentielle de sa mission qui est de servir l'humanité, on ne peut plus tracer de frontières nettes entre le dedans et le dehors, entre le social et le théologal, entre les fidèles et les dissidents. Elle s'estompe, laissant la place à de subtils dégradés et une diversité inattendue. Dans le champ immense de la solidarité se rencontrent des passe-murailles de toute obédience, fraternisant avec ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Et ils collaborent. Ils sont serviteurs de l'ombre qui échappe aux classifications de la sociologie et de l'orthodoxie. Par-delà toute pression identitaire et toute arrière-pensée de prosélytisme, le coude à coude des hommes de bonne volonté est une école de modestie. Nul ne peut plus prétendre avoir le monopole de la solidarité et du service, ni les chrétiens. Ils sont marqués, bien sûr, par une vie qui rayonne à travers leurs gestes, mais les chrétiens ne sont pas estampillés, et puis ils ne sont pas non plus les modernes chevaliers du sans-frontiérisme, comme on dit aujourd'hui, et qui ont bien conscience d'être les héritiers des religieux du temps jadis. Non, sans compter que les uns et les autres sont bien plus placés pour savoir que, dans nos sociétés modernes, la solidarité ne se confond pas avec les bonnes œuvres et les actions humanitaires, tant s'en faut. Elle passe par des mécanismes politiques et économiques régulés par l'État, qui rendent tout citoyen solidaire malgré lui, si l'on peut dire. Si généreux soit-il, les dons que font les Français à des associations socio-caritatives et humanitaires sont dérisoires par rapport aux sommes qu'ils versent sous forme de cotisations sociales, d'assurance et de TVA. Solidaires, nous le sommes, plus que nous l'imaginons. Nous le sommes non plus par décision, ni par générosité d'âme. Nous le sommes de fait, comme nous l'apprennent à nos dépens le plus souvent pour le malheur des pauvres, les épidémies, le réchauffement de la planète, les crises énergétiques et alimentaires. Notre prochain, en se mondialisant, est devenu structurel et anonyme, se confondant non seulement avec les 7 milliards d'habitants de la planète, mais aussi avec les générations à venir. Dans un tel contexte, tous les auteurs de la solidarité se savent condamnés à la modestie, mais pas à l'impuissance. L'Église ne manque pas de ressources et d'expérience pour assumer, à l'heure de la mondialisation, une mission qui est constitutive de sa catholicité. Sa diaconie n'est ni facultative, ni surérogatoire, ni l'apanage de quelques croyants zélés. Elle n'est pas, comme l'a rappelé le pape Benoît XVI, une sorte d'activité d'assistance sociale qu'elle pourrait laisser à d'autres. Elle appartient à sa nature. Elle est une expression de son amour, de l'amour apporté à l'égard de tout homme. Et l'Église ne peut pas renoncer à cet amour universel. Si telle est la nature de l'Église, on comprendrait mal qu'elle n'entre pas en connivence avec celle et ceux qui, sans se réclamer d'elle ou se refusant à son credo, prenant part aux mêmes traditions de générosité et partageant les mêmes travaux dans la cité humaine, ce sont des hommes et des femmes qui ouvrent des perspectives qui, dans le long terme, pourront changer notre humanité. Lors des conclusions de Vatican II, le pape Paul VI avait déclaré que c'était la vieille histoire du bon samaritain qui avait été le modèle et la règle de la spiritualité de ce concile. L'Église, en effet, par la voix de ses plus hauts représentants rassemblés à Rome, venait de manifester une sympathie sans borne pour ses contemporains. Faite d'admiration pour le monde moderne, de compassion pour ses détresses et de solidarité dans ses combats pour la justice et la paix. Il est intéressant de noter que le modèle auquel le pape identifie l'Église, le Samaritain de l'Évangile dans Luc 10, verset 25, n'a rien qui puisse en faire un représentant de l'institution. Le texte ne dit même pas qu'il est bon. Oui, il n'a d'autre nom que son étrangeté de païen, voire d'ennemi. Plus anonyme encore est l'homme qu'il va secourir. Il n'a d'autre qualité que d'être un homme agressé, blessé, abandonné, une victime comme il en est tant. Le Samaritain ne se demande pas qui est son prochain, contrairement au légiste qui interpelle Jésus, et se préoccupe de savoir qui doit bénéficier de la fraternité recommandée par la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Du point de vue de l'herméneutique biblique, sa question est légitime, mais Jésus la déplace sur le terrain de la pratique et de la décision concrète. Il ne s'agit pas de se demander qui est mon prochain, mais de se rapprocher de l'autre, de devenir son proche. Et ce que fait le héros de la parabole racontée par Jésus, il ne le fait pas par obéissance à la loi juive, puisque aussi bien il n'a d'autre identité que d'être en principe ennemi des Juifs, comme Samaritain. Il n'est même pas suggéré que l'homme tombé dans le fossé ait pu l'appeler au secours. Jésus met son interlocuteur en présence d'un pur geste de compassion, d'un élan personnel parfaitement contingent envers une personne qui souffre.